Radio Capi.
Le journal, Pascal Massirica.
Les titres de l'actualité: paralysie des activités aujourd'hui à Goma au Nord Kivu, c'est suite à l'appel à une journée ville morte initiée par des mouvements citoyens et la société civile pour dénoncer la répression sanglante des manifestations du 30 août dernier. Rentrée scolaire pas effective ce lundi dans le territoire d'Irumu en Ituri. À la base, les enseignants sont entrés en grève hier dimanche pour réclamer le paiement de leur salaire des deux derniers mois. Notre invitée, c'est la coordonnatrice adjointe du mécanisme de l'accord cadre d'Addis Abeba. Madame Julienne Lusenge était dans la suite de l'envoyée spéciale de l'Union africaine pour la paix venue soutenir les voix des femmes de la ville de Goma. Madame, messieurs, bonsoir. Les activités socio-économiques ont tourné au ralenti ce lundi dans la ville de Goma, au Nord Kivu, suite à l'appel à une journée ville morte pour dénoncer la répression sanglante des manifestations du 30 août dernier. Des mouvements citoyens et d'autres organisations locales réclament que justice soit faite, un enterrement digne pour les victimes de ces manifestations et la prise en charge des blessés. À Goma, le récit de Sifa Maguru.
La ville de Goma s'est réveillée dans un climat timide. La majorité de la population est restée à la maison, observer la situation. La circulation était timide le matin et a évolué au courant de la journée et des barricades observées sur certaines artères de la ville ont été dégagées sur certains axes. La rentrée scolaire n'a pas été effective à Goma car aucun parent n'a envoyé son enfant à l'école. Le reste des activités socio-économiques sont restées fermées à part les petits marchés dans les quartiers populaires. Quelques tirs de sommation ont également été entendus dans la matinée, mais aucun incident majeur n'a été signalé. Rappelons que la tension n'a pas baissé au sein de la population depuis les événements du 30 août dernier, lors de la répression sanglante des manifestants, notamment un groupe d'adeptes d'une secte, ce qui a tourné au drame au quartier Nyabushongo Kiziba 2. Depuis lors, des voix s'élèvent pour dénoncer l'usage excessif de la force par les services de sécurité, soit déférés devant la justice. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Poursuite ce lundi au tribunal militaire de Goma de la troisième audience dans l'affaire de présumés membres de la secte mystico-religieuse de Wazelendo. Pendant ces temps, deux officiers supérieurs des FARDC ont été arrêtés ce lundi matin à l'auditoire militaire d'où nous appelle Gabriel Ouamenya.
À cette troisième audience dans l'affaire qui oppose l'organe d'accusation de l'auditorat militaire de garnison de Goma aux adeptes présumés de la secte La Foi Naturelle Judaïque Messianique vers les Nations, le tribunal militaire a poursuivi avec la phase liminaire d'identification des prévenus, parmi eux des mineurs et des femmes. Cette étape pourrait encore prendre 48 heures au regard d'un grand nombre de prévenus encore à identifier avant les débits de l'instruction proprement dite de cette affaire, affirment les sources proches du tribunal militaire. Du côté de l'auditorat supérieur, nos sources confirment l'arrestation des deux autres officiers de l'armée. Il s'agit notamment du colonel Mike Mikombe, commandant de la garde républicaine basée à Goma, et d'un commandant régiment dont le nom n'a pas été cité. L'arrestation de ces deux officiers ouvre la boîte à Pandore à d'autres chats d'investigation dans cette affaire, estiment plusieurs acteurs de la société civile présents à l'audience de ce lundi. Depuis l'auditorat militaire de garnison de Goma, Gabriel Ouamenya, Radio Okapi.
Dans un autre chapitre, en Ituri, la rentrée scolaire n'était pas effective ce lundi dans certaines écoles de la sous-division de l'enseignement primaire, secondaire et technique Irumu 3. En cause, les enseignants de la zone sont entrés en grève hier dimanche pour réclamer le paiement de leur salaire de deux derniers mois. Le responsable du secteur les appelle au bon sentiment pour ne pas pénaliser les élèves. Pour en parler, retrouvons à Bounia Martial Kizabiamungu.
C'est lundi matin, c'est une rentrée scolaire tumide qui a été observée dans plusieurs écoles de Guéthi, chef-lieu de la chefferie de Walindou-Bindi. C'est le cas des instituts Guéthi et Zitono où des élèves se sont présentés en uniforme, mais aucun enseignant n'était présent. Au complexe scolaire Matibanyanga, par contre, certains enseignants se sont présentés à l'école mais ça donnait des cours. L'un d'entre eux, membre de l'association des établissements scolaires pour la promotion de l'enseignement au site du territoire d'Iromo, justifie leur mouvement. Des grèves.
Les enseignants, leurs droits sont marginalisés par les autorités même de notre pays. Si aujourd'hui, ils réclament la zone salariale, à Kinshasa, on paye les enseignants autrement, à Lubumbashi, autrement. En province orientale, à Sienne, province démembrée, on paye autrement les gens. Nous sommes dans quel pays?
Les sous-préfets de l'EPST, Iromo 3, demandent aux enseignants d'être calmes et de reprendre les activités scolaires. Androzo Nyama affirme que les revendications feront l'objet des discussions avec les chefs d'établissement.
J'évite les enseignants à la conscience, je les évite un peu au calme.
Cette rentrée tumulte a été observée également dans les localités proches des Komanda. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et puis la rentrée scolaire était peu mouvementée aujourd'hui dans plusieurs écoles publiques du Grand Équateur. Par contre, beaucoup d'élèves ont repris le chemin des écoles privées où les enseignements ont bel et bien commencé. Mbandaka, Paul-Richard Malengela.
En Bandaka, ce lundi, autour de 7h30 locales, les avenues n'ont pas connu l'engouement habituel de la rentrée scolaire. Les élèves en uniforme étaient peu nombreux. Toutefois, certaines écoles publiques et surtout privées ont ouvert les portes et démarré les enseignements. Cette timidité est certes consécutive aux difficultés des parents, mais bien plus à la confusion entretenue par l'appel du CIECO à la grève d'un mois. Alors que le SINECAT, le SINEP et la COSEL, respectivement syndicat des enseignants catholiques, protestants et libres, avaient appelé à la rentrée effective. Par ailleurs, à Kungu, dans le sud d'Ubangi, les enseignants sans salaire depuis deux mois se sont montrés indifférents à la rentrée scolaire. Le coordinateur de la société civile Voix des Sans-Bouches Kungu, Emmanuel Bamolokola, témoigne.
Nous avons accusé déjà un retard de deux mois de leur paiement. Ça donne des difficultés à que les enseignants puissent faire retourner leurs enfants à l'école. Les enseignants aussi ne sont pas tellement contents suite au non-respect des engagements du gouvernement. Ça a créé aussi une timidité avec les nouvelles unités au niveau du primaire. Les actions du mois de juillet ici n'ont touché aucun enseignant du niveau secondaire. C'est ce qui donne un mécontentement général.
En fait, la rentrée scolaire a été effective à Guadolité, indiquent des témoins, en dépit des difficultés des parents à doter leurs enfants de fournitures scolaires. Entre-temps, la pluie a gâché la fête à Bumba dans la Mongala, alors que tout le monde s'était préparé à une rentrée effective ce lundi matin. Bondaka pour Chamaningue, la Radio Okapi.
Dans les Kwilu, la communauté des amis de la nature et de la culture a réuni ce week-end du matériel médical à l'hôpital général de Bandundu et au centre de santé de la Sepko Malebo. C'est pour la prise en charge des déplacés de Kwamout ayant fui l'insécurité causée par le conflit entre les communautés Teke et les Yaka. Le coordonnateur de cette structure humanitaire parle d'un appui financier du Fonds des Nations Unies pour la population UNEPFIE. À Bandunduville, la correspondance d'Irène Boma.
Ces kits médicaux remis aux établissements de soins en faveur des déplacés de Kwamout vivant à Bandunduville sont essentiellement constitués de produits et matériels tels que des tests de grossesse, des antibiotiques, des préservatifs masculins, des compresses stériles, des boîtes à pinces, des spéculums, des écarteurs, des tambours moyens et petits, des tensiomètres, des bassins réuniformes et de plusieurs autres intrants. C'est la Kanaki, agence humanitaire, qui a procédé à la remise de cette dotation. Damien Bungo, son coordonnateur, explique.
Kanaki, avec l'appui de l'UNFPA, vient de remettre tous ces produits que vous voyez et quelques matériels médicaux dans le cadre des activités urgentes en réponse à la crise de Kwamout. Cette remise a concerné la zone de santé de Bandundu, précisément l'hôpital général de référence de Bandundu et le centre de santé Sebeko Malebo. Les produits qu'on vient de remettre vont servir à l'offre des services intégrés de prise en charge des urgences et soins médicaux des femmes enceintes, des cas des infections sexuellement transmissibles ainsi que des cas de violences sexuelles.
Selon Damien Bungu, les mêmes kits seront aussi remis dans la zone de santé de Kwamout pour faciliter l'accès aux soins de santé à des milliers de déplacés. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi au Kasaï Oriental, la banque Equity BCDC réclame actuellement 700 millions de francs congolais contractés depuis le 24 juin dernier par le gouverneur, mis en accusation par l'Assemblée provinciale. Conséquence, cette banque procède à la retenue à la source des montants non révélés sur le compte de la province jusqu'à apurer la dette. Lors d'une rencontre tenue ce week-end entre la délégation de la banque et le bureau de l'Assemblée provinciale, le président de l'organe délibérant a indiqué que son institution n'a jamais été saisie d'une quelconque autorisation d'emprunt par le gouverneur auprès d'une banque. Abba Mbujimai, externe de la FINA.
La délégation de la banque Equity BCDC qui a été reçue la semaine dernière par certains membres du bureau de l'Assemblée provinciale a été fixée autour de la dette contractée au mois de juin dernier par le gouverneur de province mise en accusation par l'organe délibérant. Kizito Mfounyi, président intérimaire de l'Assemblée provinciale, a réitéré la décision écrite par son institution dans la correspondance du 30 août dernier. Dans cette lettre, l'Assemblée provinciale a évoqué les dispositions de l'article 40 à l'inéa 1 de la loi numéro 08/12 du 31 juillet 2008 et l'article 187 alinéa 1 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale qui dispose que l'émission d'emprunt et la signature d'un accord de prêt sont des actes pour lesquels le gouvernement provincial doit obtenir l'autorisation préalable de l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale et le gouverneur de province intérimaire déplorent la décision de la banque de la retenue à la source depuis le mois dernier d'un montant non révélé sur le compte de la province avec objectif d'apurer la dette. Aux dernières nouvelles, la banque a promis d'exhiber cette semaine la lettre d'accord de prêt signée à quelques jours de sa déchéance par l'ancien président de l'Assemblée provinciale. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
En plus bref, l'audience publique au procès de la débâcle du parc agro-industriel de Bougangalonzo a nouveau renvoyé au 25 septembre. Cette remise est sollicitée par la défense de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo vise à leur permettre ainsi d'accéder à son dossier. Le greffe de la Cour constitutionnelle a été attaqué par la défense pour n'avoir pas permis l'accès à plus de 6000 pièces de dossier, pendant que les autres parties de la défense de Déogratias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, et Christo Globler, patron de la firme sud-africaine Africom, ont compulsé quant à eux 4000 pièces de leurs dossiers respectifs. Dans le souci du respect d'un droit de la défense, le juge constitutionnel a donc accordé une remise. Rappelons qu'Auguste Matata Ponyo est poursuivi avec ses co-accusés pour un détournement présumé de plus de 250 millions de dollars américains dans la gestion du parc agro-industriel de Bougangalonzo. On en vient à cette affaire de 120 tonnes de cathode de cuivre de Tenkefungurume Mining. Le coordonnateur du panel des experts de la société civile demande que les personnes qui sont citées dans ce dossier répondent devant la justice. C'était ce lundi au centre culturel Boboto de Kinshasa. Les propos de Dieudonné Mouchagaloussa ont été recueillis par Fulbert Balolagui.
Le panel des experts de la société civile fait observer à l'opinion nationale et internationale que parmi les présumés auteurs de ces forfaits, l'on cite certaines personnalités dont les gouverneurs de province, les ministres provinciaux de l'intérieur du Haut-Katanga et les commandants de la 22e région militaire. Par ailleurs, le panel des experts de la société civile regrette le fait que parmi les trois présumés si haut cités, seul le commandant de la 22e région militaire à la personne de Gihanga Muta Smith soit détenu dans les installations de l'état-major général des renseignements militaires des FARDC, ex-DEMIAP, pendant que les deux autres ne sont pas inquiétés et continuent à vaquer librement à leurs occupations. Le panel des experts de la société civile condamne ce traitement partial et l'usage excessif des services de renseignement qui mettent à mal l'état des droits prôné par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cela étant, le panel des experts de la société civile exige que la DEMIAP se dessaisisse du dossier pour permettre aux détenus de bénéficier d'une justice équitable.
La résolution des conflits miniers passe par la bonne gouvernance et le respect des droits humains. À propos du professeur Nathalie Nakabanda de l'Université catholique de Bukavu au Sud Kivu dans un exposé marquant la fin hier dimanche à Bukavu du symposium international sur Monseigneur Christophe Muziro Mwenengabo. Ce symposium portait sur la justice, la paix et la réconciliation dans la région des Grands Lacs. Professeur Nathalie Nakabanda est au micro d'Emmanuel Elamejua Kabedi.
Monseigneur Muziro, il a milité pour le bien-être du peuple congolais. Et les contrats qui sont conclus par la RDC doivent être des contrats qui concourent à la réalisation de cet intérêt général qu'a soutenu longtemps Monseigneur Muziro en vue de la dignité, du bien-être et du respect des droits humains du peuple congolais. L'intérêt au centre de l'action du politique devra être guidé par la personne humaine dans sa dignité, dans son développement intégral. Et le gouvernant doit travailler dans cet objectif déterminé déjà par Monseigneur Muziro. Certainement que si cela est observé, il est possible qu'on puisse progressivement arriver à toucher le cœur même du problème de conflit. Parce que si l'intérêt général est respecté, si la loi est respectée, on n'aura pas de conflit. S'il y a la bonne gouvernance, il n'y aura pas de conflit politique, il n'y aura pas de conflit juridique. Il y a donc besoin à ce que nous puissions conjuguer les efforts, que chacun apporte sa contribution là-dessus.
Actualité internationale.
Au Gabon, cinq jours après le coup d'État contre le président Ali Bongo, le général Brice Oligui Nguema a prêté serment ce lundi matin à Libreville en tant que président de la transition du pays. Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter en même temps et de faire respecter la charte de la transition et la loi, a déclaré le nouvel homme fort du pays qui a également affirmé qu'il va préserver les acquis de la démocratie. Au Niger, pendant ces temps, le régime militaire a décidé de rouvrir ce lundi son espace aérien fermé depuis le 6 août dernier. Les frontières terrestres et aériennes avec cinq pays frontaliers avaient été rouvertes le 2 août dernier après leur fermeture lors du coup d'État du 26 juillet ayant renversé le président élu Mohamed Bazoum.
L'invité.
Notre invitée, c'est la coordonnatrice adjointe du mécanisme de l'accord cadre d'Addis Abeba. Madame Julienne Lusenge était dans la suite de l'envoyée spéciale de l'Union africaine pour la paix venue soutenir la voix des femmes de la ville de Goma. Elle s'entretient avec Bernardine Diambou.
Madame Julienne Lusenge, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes la coordonnatrice adjointe du mécanisme de l'accord cadre d'Addis Abeba et présidente de l'organisation l'OFEPADI et directrice du Fonds pour la femme congolaise. Alors, vous venez de clôturer la mission de plaidoyer pour la paix avec l'envoyé spécial de la Commission de l'Union africaine, Madame Binetta Diop, venue d'Addis Abeba. Alors, madame, que peut-on retenir de cette mission qui a duré deux jours ici à Goma?
Madame l'envoyée spéciale de la Commission de l'Union africaine a écouté le cri des femmes congolaises. Nous avons lancé ce cri à Addis pour demander qu'elle puisse venir voir. Et nous avons parlé avec le président de la commission. Et c'est comme ça qu'on l'a envoyée pour venir voir. Et elle n'est pas venue seule, elle a amené d'autres femmes avec elle pour que nous puissions rencontrer, voir les victimes, voir ce qui se passe et porter la voix de celles qui ne peuvent pas arriver là où elle est, parler de la situation. Les femmes ont demandé la paix. Les enfants ont demandé de retourner à l'école. La population, les femmes, les jeunes, toutes catégories de femmes qu'on a rencontrées, des jeunes qu'on a rencontrés, des enfants qu'on a rencontrés, ont dit on a besoin de la paix. Et la paix, c'est juste que notre voisin accepte de vivre en paix avec la RDC. Donc, c'est ça le message qu'elle va porter partout où elle va aller, à la commission d'abord, et puis après, à tous les niveaux. Elle va aller rencontrer les leaders, les chefs d'État de la région des Grands Lacs, pour leur expliquer ce cri d'alarme, de détresse, de désolation, de femmes et filles du Nord Kivu. Elle a été à Kinshasa, elle a rencontré les autorités, elle a rencontré aussi les femmes de Kinshasa, qui sont aussi affectées par ce qui se passe ici. Elles ont lancé le même cri. Donc, ce n'est pas la première fois qu'elle arrive. Elle vient souvent. Chaque fois qu'on l'invite, elle vient. Et c'est dommage qu'elle dise, chaque fois qu'elle arrive, la situation s'empire davantage. Elle souhaiterait que, au moins que cette fois-ci, les choses changent. Nous avons eu des noceurs de Burundi, nous avons eu la conseillère du président des Comores, qui est maintenant la présidente de l'Union africaine. Elle va faire rapport au président des Comores par rapport à ce qui a été vu. Il y a la ministre honoraire de la Défense de Kenya qui est là. Il y a la première femme juge du Kenya qui est là. Elles ont tous vu. Il y a aussi notre délégué de l'ambassade de la RDC en Éthiopie qui est avec nous. Donc, nous pensons qu'elles ont vu, elles ont écouté, elles vont porter ce message. Et nous avons l'espoir que les chefs d'État vont l'écouter et vont accepter de faire la paix. On ne peut pas faire le développement sans la paix.
Alors, madame, pourquoi seulement le choix du Nord Kivu alors qu'il y a d'autres provinces qui sont aussi affectées par les conflits armés?
Comme je viens de vous dire, ce n'est pas la première fois qu'elle vient. Elle a été à Beni quand les massacres ont commencé à Beni. Elle a été à Ituri, je l'ai invitée à Ituri et à Beni. Elle a rencontré aussi les victimes, elle a aussi parlé de ça. Elle a été ici, Madame Faïda Mwangilo nous a rappelé hier quand on a rencontré le gouverneur. Elle a été avec, quand il y avait le RCD ici, elle était là, elle est allée parler à ces gens d'arrêter ceux qui sont en train de faire. Et quand le M23-1 a commencé, elle était dans la ville de Goma. Elle a traversé à pied pour rentrer à Kigali, prendre son avion. Donc, ce n'est pas qu'on est venu seulement voir ici, mais elle a déjà été ailleurs. On a dit, on vient encore là où il y a encore cette crise grave avec les M23 qui sont soutenus par les voisins.
Quel message clé que vous pouvez adresser aux autres femmes concernant la paix?
Le message clé, c'est que ne pas perdre l'espoir. Les autres femmes dans d'autres pays sont passées aussi dans la même situation. Mais elles ont tenu, elles se sont soutenues. Surtout, être ensemble, être unies pour avancer, pour mettre fin à la guerre. Nous devons mettre nos efforts ensemble. Nous devons avoir le même message pour être fortes et continuer à nous battre. Nous devons demander et forcer les portes pour que nous puissions être autour des tables, là où on parle de la paix, on parle de négociations, on parle du processus de Nairobi, processus de Luanda. Nous, comme femmes, nous devons être là. Et ça, nous n'avons pas besoin d'attendre qu'on nous amène. Nous allons nous-mêmes aller là-bas pour participer.
Madame Julienne Lesengue, Radio Capif, du merci.
Merci à vous aussi. Merci de nous avoir accompagnés dans cette mission.
C'était l'invité de Radio Capi, Julienne Lesengue, qui était interviewée à Goma par Bernard Dindiambou. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté.